Vous écoutez France Culture.
Réplique, la démocratie a-t-elle besoin de limites ? Avec Cynthia Fleury et Dominique Schnapper. En Occident au moins, la démocratie a triomphé de tous ses rivaux, autoritaires ou totalitaires. Elle a vaincu le fascisme et le communisme s'est effondré. Ce triomphe pourtant n'est pas joyeux. Il y a même aujourd'hui, en guise de fin de l'histoire, comme un malaise démocratique. De ce malaise, de ce désenchantement, de ce désarroi devant un système qui ne répond qu'imparfaitement aux espoirs qu'il avait suscités, nous allons parler aujourd'hui avec la sociologue Dominique Schnapper qui publie « L'esprit démocratique des lois » et avec la philosophe Cynthia Fleury, auteure entre autres des « Pathologies de la démocratie ». Et comme votre titre évoque délibérément Montesquieu, Dominique Schnapper, je commencerai par une réflexion tirée de l'esprit des lois. Le principe de la démocratie se corrompt, non seulement lorsqu'on perd l'esprit d'égalité, mais encore quand on prend l'esprit d'égalité extrême et que chacun veut être égal à ceux qu'il choisit pour lui commander, écrit Montesquieu. Le malaise actuel de la démocratie vient-il du fait qu'on a perdu l'esprit d'égalité ou qu'on a pris l'esprit d'égalité extrême, Dominique Schnapper?
Oui, vous faisiez allusion au malaise dont nous prenons tous conscience. Et il est d'autant plus frappant que si on se met dans une perspective historique un peu large, jamais on n'a connu des sociétés qui soient aussi libres, aussi tolérantes, aussi riches et, disons, aussi peu inégales. Et malgré tout, nous constatons tous un certain malaise démocratique qu'on exprime dans des termes différents. Alors oui, en partant de Montesquieu, le discours le plus fréquent dénonce plutôt l'accroissement des inégalités ou les limites des inégalités. Ce discours est vrai, enfin porte sur une réalité, mais dont il ne faudrait pas oublier que l'égalité, par définition, ne peut jamais être atteinte. On peut souhaiter et réaliser jusqu'à un certain point l'égalité politique, c'est-à-dire l'égalité civile, juridique et politique, mais l'égalité des conditions sociales est une sorte d'idéal au nom duquel on peut critiquer la réalité, mais qu'on ne peut pas réaliser concrètement. Et donc il y a là une source continue d'insatisfaction devant l'insuffisance de l'égalité. Mais d'un autre côté, il y a en même temps le risque que se développe ce que Montesquieu appelle l'égalité extrême, c'est-à-dire le moment où les démocrates cesseraient de prendre conscience des limites et des principes de leur organisation sociale et même des limites de ce qu'on peut appeler la condition humaine. Dans ce livre, j'ai insisté sur cette possibilité des excès ou des exagérations ou des dévoiements et j'ai laissé de côté le discours sur les inégalités qui se maintiennent en montrant, mais bien entendu, les deux peuvent exister conjointement, c'est-à-dire qu'on a à la fois des inégalités contre lesquelles il faut lutter et le risque des dévoiements possibles de la recherche de l'égalité extrême.
Alors, quel exemple de dévoiement vous pourriez citer ?
Alors c'est le moment où la liberté, qui est la liberté politique et qui est le fondement et le principe de nos sociétés, deviendrait non plus l'autonomie, mais l'indépendance. C'est-à-dire le moment où ce ne serait plus l'expression de la liberté à travers les règles communes qui organisent cette liberté, mais où ce serait simplement ce serait le retour de l'expression simplement de l'individu qui suit ses propres caprices, ses propres passions, ses propres émotions dans le moment et n'exprime plus la critique légitime et souhaitable, puisqu'elle est le signe de la liberté politique, la critique de la société et des institutions politiques à travers les institutions qui organisent cette critique. C'est-à-dire où on passerait, disons, de la liberté politique à la licence et du citoyen qui, par définition, est critique à l'individu qui suit ses propres penchants sans tenir compte des lois qu'il organise et des conséquences de ses penchants vis-à-vis des autres et de la société en général.
Cynthia Fleury.
Oui, Tocqueville est allé d'ailleurs assez dans ce sens, dans la mesure où il avait pointé du doigt des équations de travestissement démocratique et qui sont assez proches, entre guillemets, de ce que peut laisser entendre Montesquieu, en disant effectivement qu'un principe démocratique a tendance à devenir une passion. Et c'était de la différence entre principe de l'égalité, qui est, comme l'a très bien dit Dominique Schnapper, un principe d'auto-limitation, mais il y a quand même limitation dans le mot, d'auto-responsabilisation, d'autorégulation, en tout cas d'une prise de conscience qu'il y a une dialectique très forte entre le droit et le devoir notamment. Et puis effectivement une passion. Le principe de l'égalité n'est pas la passion de l'égalitarisme. Le principe d'individualisme n'est pas la passion, le principe d'individuation, qui me paraît quelque chose de très très important, n'est pas du tout la passion de l'individualisme. Donc là, on voit très bien ce qu'on manque très souvent, je crois, quand on définit ce qu'est la démocratie. La démocratie, c'est moins de la permissivité qu'une très grande normativité. Et quand on parle d'indivisibilité des droits, par exemple, ça veut dire qu'on ne joue pas un droit contre un autre, mais ça veut dire aussi qu'on pondère les droits les uns par les autres. Et je crois qu'on a perdu cette idée que voilà, la liberté est toujours pondérée par l'égalité, qui est elle-même pondérée par un principe d'individuation, et que c'est ce tout-là, très très articulé, qui forme, entre guillemets, la base de l'état de droit.
Oui, mais Cynthia Fleury, quand vous parlez des danger de l'égalitarisme. Là aussi, est-ce que vous pouvez donner un exemple ?
Je donne un exemple basique que tous les professeurs peuvent, dont ils peuvent faire l'expérience, parce qu'on la ressent de plus en plus quand on enseigne et qu'on a un étudiant face à soi. Nous sommes dans un principe d'asymétrie. Nous ne sommes pas au même endroit, nous ne faisons pas les mêmes choses. Éventuellement, le professeur parle, l'étudiant se tait. C'est un principe d'asymétrie. Et puis l'égalitarisme, c'est que tout d'un coup, ce principe d'asymétrie qui est absolument conditionnel, c'est-à-dire il est structurel au fait que l'autorité peut exister. Et l'autorité n'est pas antinomique de l'égalité. Et je crois qu'on perd la notion, on pénètre dans la notion d'égalitarisme quand on considère que soudainement l'autorité, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est nécessairement de l'autoritarisme et l'asymétrie des rôles, ça n'existe pas non plus. Et là, on manque la subtilité, si j'ose dire, de ce que peut être la démocratie.
Et vous sentez que cette confusion,
oui, elle est très forte,
est aujourd'hui très forte.
Elle est très très forte et elle est terrible parce que précisément, c'est manquer la différenciation de nos rôles, non seulement à l'intérieur des jeux sociaux, mais aussi dans notre vie. Nous ne sommes pas au même endroit quand nous avons 18 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, etc. Le rôle de la filiation, de la transmission, le rôle de l'aîné, le rôle de l'éducation passe nécessairement par un jeu d'asymétrie. Mais vous pouvez totalement respecter, même au contraire, je crois que c'est profondément respecter celui qui est en face de vous, en même temps, quand vous savez, si j'ose dire, le contextualiser. Ça, ça devient extraordinairement difficile.
Oui, la société est formée d'une série de relations asymétriques. Et si on traduit effectivement toute asymétrie comme une forme de domination, la domination des dominants sur les dominés, qui est une formule qui maintenant explique toute chose, et si on réduit toutes les formes d'asymétrie des relations sociales, on aboutit évidemment à une société monstrueuse et qui ne reconnaît pas la diversité des rôles et des fonctions à l'intérieur de la société. Puis je voudrais reprendre ce qu'a dit Cynthia Fleury sur la nécessité de pondérer les différentes valeurs qui organisent la vie démocratique et le fait que les institutions, et je pense au Conseil constitutionnel, passent leur temps à concilier des valeurs qui sont en elles-mêmes antagonistes. Et en particulier, elles renvoient toujours finalement à ce qui risque d'être contradictoire, c'est-à-dire la liberté et l'égalité, la liberté extrême ou l'égalité extrême, qui sont logiquement contradictoires, mais que dans la vie sociale réelle, telle qu'elle se développe, doivent être conciliées. Et le terme de conciliation est un terme très important des jugements de droit dans toutes les cours constitutionnelles, dans toutes les langues, parce que, effectivement, la gestion des problèmes sociaux consiste peut-être avant tout à concilier des valeurs qui ne sont pas spontanément en accord.
Mais alors, si on en reste un instant à cette question de l'égalitarisme et de l'indistinction, que pensez-vous l'introduction aujourd'hui, non seulement à l'université, mais même dans l'enseignement secondaire, voire dans l'enseignement primaire, je ne dirais pas de la théorie du genre, parce que je me taperais sur les doigts, mais des études de genre.
Il y en a d'autres pour le faire.
Des études de genre, puisque, au fond, il s'agit quand même, au bout du compte, de s'en prendre ou déconstruire l'idée d'une différence sexuelle, de réduire autant que faire se peut la part du donné pour libérer les individus, stade ultime de l'émancipation, ils pourront avoir tous les choix possibles sans être assignés à résidence dans justement un sexe donné, puisqu'il n'y a pas d'autre réalité que les constructions sociales qui sont faites pour être transformées. Ne va-t-on pas là vers cette indistinction dont vous parlez, Dominique Schnapper? N'est-ce pas un des symptômes contemporains de ce que Montesquieu aurait appelé l'esprit d'égalité extrême, Cynthia Fleury?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, sur les études de genre, je ne suis pas sûre que l'idée soit d'absolument anéantir l'idée qu'il y a une différence. En revanche, je pense que ce que cherchent à dire les études de genre, c'est que la nature n'a pas le monopole de la différenciation sexuelle, ce qui est assez différent. Et que la différenciation sexuelle, elle est le produit de diverses choses, notamment de ce qui se passe naturellement, mais bien évidemment de tout le discours sur la nature et donc de la réalité sociale, culturelle, historique, etc. Donc, pas de monopole de la différenciation sexuelle de façon biologique, si j'ose dire, et donc ça se construit. En revanche, si je cherchais l'exact intitulé là à l'instant, mais je prenais la loi qui vient de tomber en Australie par le Haut Conseil australien et qui vient de valider le troisième genre, le citoyen du troisième genre. Donc le citoyen du troisième genre, ça dit très clairement que s'ouvre aujourd'hui une possibilité plurielle, si j'ose dire, de l'identité, en tout cas avec un sentiment, sans doute, retour à Platon, hein, retour au premier discours dans le banquet d'Aristophane, c'est-à-dire cette idée que, après tout, qu'est-ce qu'un humain ? Ce serait peut-être de vivre un sexe, puis l'autre, puis demain une indifférence. Pas une indifférenciation des sexes, les deux, mon capitaine,
oui,
ce qui
ça,
est différent.
Mais... Donc...
Ce qui est toujours... Hein, c'est pas, là, on voit très bien, d'ailleurs, le caractère vorace, si j'ose dire, de la démocratie. C'est qu'il ne s'agit pas d'enlever quelque chose pour récupérer autre chose. Il s'agit d'avoir les deux.
Oui.
Et voir les trois, parce que bien évidemment, c'est trinitaire cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il surgit du fait de récupérer deux sexes, il surgit un troisième sexe. Et on voit très bien le caractère de cette illimitation, comme si demain, voilà, l'enjeu, c'est de vivre potentiellement tout ce qui est possible.
Voilà.
Et ce n'est plus cette question du deuil, ce n'est plus le fait de renoncer. Être libre, ce n'est plus renoncer. Alors qu'on nous a longtemps appris qu'être libre, c'était aussi renoncer.
Oui, et puis on a l'impression là qu'il s'agit à la fois de vaincre la finitude, on est dans les limitations, et de surmonter l'altérité, et à ce moment-là, on va vers l'indistinction. Donc ce sont les deux thèmes de votre livre, Dominique Schnapper, qui se rejoignent dans cette utopie ultime.
Oui, les démocrates sont tentés de ne pas voir de limites. Et évidemment, jusqu'à une date récente, on pensait qu'il y avait des limites naturelles. C'est-à-dire qu'il y avait, en gros, le sexe, l'âge et l'origine ethnique. On pouvait agir sur le reste, il y avait une conception sociale du reste, mais on disait volontiers que le Parlement anglais pouvait tout faire sauf changer un homme en femme, ce qui indiquait l'impossibilité absolue, parce que c'était la nature. Donc il y avait une idée de nature qui mettait une limite à la construction par l'homme de sa propre société. Et ce à quoi on assiste dans une date de façon plus récente, c'est à l'idée qui c'est l'idée qu'il n'y a pas de nature qui s'impose à l'homme, que l'homme peut tout créer à partir de lui-même. Il est vorace, comme dit Cynthia, c'est-à-dire qu'il n'admet pas qu'il y ait une limite biologique aux relations sociales et à sa forme d'existence. Et donc, le sexe n'est plus une limite. L'âge, on essaye de le dépasser. On imagine qu'on pourrait changer tous les éléments du corps de telle sorte qu'on pourrait vivre sans aucune limite. Quant à l'origine ethnique, un sociologue américain a appelé à une Amérique post-ethnique dans laquelle chacun choisirait son origine ethnique et ne serait plus naturellement assigné à une origine particulière. Et évidemment, c'est d'ailleurs, d'une certaine façon, Habermas et son rêve du patriotisme constitutionnel, c'est une autre illustration de cette conception de l'homme démocratique qui veut tout construire à partir de lui-même et n'admet pas qu'il y ait des limites naturelles à son action sur lui-même et sur la société.
Alors c'est intéressant parce que, en effet, ce que disent aujourd'hui les sciences sociales, ce n'est pas que l'homme appartient nécessairement à une culture, à une compréhension collective du monde, mais plutôt que tout est social, et si tout est social, tout peut
tout
être refait. C'est ce que Bourdieu appelait la défatalisation du monde. Mais alors là, en revenant à cette question de savoir si on a perdu l'esprit d'égalité ou si on a pris l'esprit d'égalité extrême, je trouve que nous vivons un paradoxe très fort, parce que on a l'impression que tout est ouvert à l'homme, il n'y a plus en effet de données, mais d'un autre côté, nous sommes confrontés à l'impuissance grandissante de la politique. Et on le voit aujourd'hui en France, la démocratie, au sens d'un régime, c'est la confrontation des projets. Or, aujourd'hui, il semblerait qu'il n'y ait qu'une politique, c'est une politique économique, un peu d'augmentation des impôts, la réduction des dépenses, et c'est ainsi que la gauche, par exemple, gèle les retraites, alors qu'elle est redistributive. Sans doute ne peut-elle pas faire autrement. Et en même temps, les profits augmentent. Donc économiquement, on ne peut pas dire qu'on va vers l'égalité. Mais surtout, impuissance croissante de la politique et imaginaire, par ailleurs, du tout est possible dont vous avez parlé l'une et l'autre. Comment concilier est-ce que ce n'est pas ces deux réalités-là qui font le fond de notre malaise ?
Sachant que...
Cynthia Fleury.
Sachant que tout de même, le dessaisissement du politique a été au départ, ça fait une petite trentaine d'années, vingtaine d'années, on va dire, depuis l'arrivée d'un néo-conservatisme hyper-libéral, etc., au pouvoir, donc le thatcherisme, le riganisme et tout ce qui peut s'en suivre, cette question du dessaisissement a été politique. C'est-à-dire que ça a été d'abord le fruit d'une idéologie politique. Donc cette impuissance, elle n'a rien d'un combat mené. C'est un combat qui n'a pas été mené. C'est un combat qui a été refusé d'être mené ou qui n'a pas été vu. Il y a eu un impensé, comme si tout d'un coup, le politique, précisément, s'est laissé chipper le ballon, voire même la donner. Et aujourd'hui, le chemin inverse est extraordinairement compliqué à mettre en place parce qu'il y a une affaire de puissance, c'est-à-dire l'affaire de puissance, c'est la finance des régulés, c'est le fait que quand vous avez un algorithme qui est capable de prendre dans de la finance à haute fréquence 14 000 décisions à la seconde, vous comprenez bien que la décision politique, qu'est-ce qu'elle peut faire face à cela ? Puisque c'est une liquidation totale de la décision politique. Et donc, tout le chemin, ça a été, on a mis 20 ans à construire politiquement l'impuissance du politique, si j'ose dire. Et maintenant, il va falloir, le peut-on encore, refaire la différence. C'est possible. Moi, je pars du principe que de toute façon, il est plus régulateur. Je suis une bonne spinoziste de ce côté-ci. Je pense que, entre guillemets, c'est plus régulateur de penser que c'est possible et de s'y mettre. Mais effectivement, l'affaire ne sera pas simple. Donc ça, c'est très certain.
Il me semble qu'il y a des conditions, disons des conditions objectives et techniques qui font que, effectivement, dans la mondialisation et la financiarisation du monde tel qu'il se développe, les politiques qui sont au niveau national ont peu de pouvoir sur des phénomènes qui sont vraiment transnationaux de plus en plus. Et qu'il y a un décalage entre la légitimité démocratique qui pour l'instant reste au niveau national, et on le voit bien en Europe, dans la résistance à l'Europe qu'on observe dans les pays qui ont créé l'Europe, et dans le reste du monde, n'en parlons pas, les passions nationales restent extrêmement fortes, mais en même temps, beaucoup des phénomènes qui se développent sont des phénomènes qui ne sont pas dans la puissance des pouvoirs nationaux. Et d'autre part, ça c'est le premier phénomène, et il me paraît essentiel et fondamental. Il faut ajouter que la remise en cause de toutes les règles qui organisaient la vie démocratique, qui est un des risques de corruption de la démocratie, parce que la démocratie sort d'une aspiration à la liberté et de mouvements révolutionnaires, mais ensuite elle fonctionne par le respect des institutions. Et la remise en cause des institutions, alors à l'intérieur, ne facilite pas la puissance du politique. C'est-à-dire que c'est par le respect des institutions que le politique peut garder un minimum de puissance. Donc on a d'une part la situation mondiale qui affaiblit des politiques qui sont nationaux, et d'autre part une critique des démocraties qui admettent difficilement les contraintes qu'imposent les institutions. Or, la démocratie, après le mouvement de l'aspiration à la liberté, après le moment révolutionnaire, c'est le respect des pratiques démocratiques, donc des institutions.
Au cœur de la démocratie, vous en parlez d'ailleurs, Dominique Schnapper, il y a la représentation. Et aujourd'hui, les représentants sont en très mauvaise posture. Il y a peut-être un cercle vicieux, c'est-à-dire l'esprit d'égalité extrême. On peut même parler de ressentiment démocratique. Consiste en quelque sorte en vouloir à ceux qu'on élit, parce qu'avec un côté, mais pour qui se prennent-ils ? Au nom de quoi ? Pourquoi seraient-ils les meilleurs ? D'où le sarcasme, la dérision qui s'abat sur eux sans discontinuer. Et comme en plus leur pouvoir est sans cesse réduit, il n'y a pas de raison que ça cesse. Ils payent à la fois leur éminence, et on n'aime pas l'éminence ou toute forme de transcendance en démocratie, et leur impuissance. Et j'ai peur que cela conduise à décourager des vocations. Je me demande qui aujourd'hui aurait envie dans les jeunes générations de se lancer dans la politique. Même quand on est conseiller, semble-t-il, on n'est pas à l'abri, si vous voulez, du lynchage, qu'on l'ait mérité ou non. Donc c'est quand même une situation qu'il faut analyser.
Alors,
Cynthia Fleury.
Pour reprendre juste, parce que c'est assez lié, sur la question du respect des institutions, là où on a vu l'illusion, si j'ose dire, je parlais tout à l'heure d'autorité, c'est qu'on a cru effectivement que là où il n'y aurait pas d'autorité, il y aurait de l'égalité. De fait, là où il n'y a pas d'autorité, il y a de l'autoritarisme. Donc c'est ça, la vérité de l'absence d'autorité. Et bien évidemment, un des hauts lieux de l'incarnation de l'autorité, ce sont les institutions notamment. Donc en ne respectant pas les institutions, on ne fait simplement que faire grimper la loi de la jungle. Et moi, ce que j'ai appelé à la place du nom du père, on fait grimper le nom des pères, P-A-I-R-S, c'est-à-dire soi-disant les altères, mais qui sont terribles et qui vous mettent au pas, et c'est toute forme de communautarisme, et j'enlève la spécificité ethnique de ce mot-là, la tribu qui vous entoure et qui bien évidemment est encore plus autoritaire que l'institution qui peut vous libérer. Ça, c'est un premier point. Sur la question du découragement, etc., je crois qu'il y a plusieurs choses. Parce que oui, bien évidemment, la passion égalitariste conduit à pratiquer le sarcasme et le ressentiment par rapport à une figure qui serait ressentie comme non plus dans l'autorité, parce qu'il y a la question aussi de l'illégitimité de ces autorités, et considérée dans la posture. Bon, très bien. Mais il n'y a pas que ça, tout de même. Il n'y a pas que ça. Il y a un phénomène aussi de, j'aime pas ce terme, de transparence publique, mais en tout cas de volonté de probité publique, de déontologie de la vie publique. Et donc, tout de même, petit à petit, on a vu que s'est découplé un couple qui tenait aussi la République et qui était le couple éthique et politique. Et ce couple éthique et politique, il a pris tout de même un coup sur la tête. Et je crois qu'on a oublié à quel point, en deçà du compromis social, il y a un autre compromis qui est celui de la déontologie de la vie publique et du fait que l'on ait le sentiment de cette déontologie publique. Alors, sans doute avait-on avant le sentiment. Elle n'était peut-être pas si réelle que cela. Mais aujourd'hui, on n'en a même plus, le sentiment. Et ça, c'est très dérégulateur pour la société.
Dominique Schnapper.
Oui, je crois que vous avez très bien résumé quand vous disiez on les trouve éminents et on n'aime pas l'inégalité et on les trouve impuissants. Donc je crois que ça repose sur, la critique fondamentale de l'idée de représentation. Parce que si on est dans un individualisme extrême, personne ne peut me représenter sauf moi-même. Donc il y a déjà dans l'idée même de représentation, l'idée que ceux qui nous représentent ont quelques supériorités sur nous pour pouvoir gérer les affaires qu'on, dans l'idée de représentation telle qu'elle est née à la fin du XVIIIe siècle, c'était l'idée qu'on prenait des gens qui étaient mieux à un certain point de vue. Ils étaient les meilleurs. Ils étaient plus âgés. Ils étaient peut-être plus riches. Ils étaient plus intelligents.
Enfin,
ils avaient quelque chose en plus qui faisait comme. Or cette idée même, la dimension aristocratique de l'idée de représentation est très très contraire. À la voracité démocratique aujourd'hui. Et c'est très frappant que nos présidents de la République, nous leur reprochons successivement d'être trop. Trop aristocratique. Alors on a des exemples, Valéry Giscard d'Estaing, Laurent Fabius, ou bien pas assez, alors là c'est Nicolas Sarkozy qui faisait des fautes de français, ou bien d'être trop comme nous, comme c'est le président actuel. C'est-à-dire que nous leur demandons des vertus contradictoires parce que fondamentalement c'est l'idée même d'être représenté que l'individu démocratique n'aime pas. Quant au deuxième point, il me paraît très important. On a parlé de corruption jusqu'à présent dans le sens de Montesquieu et pas dans le sens courant. Mais il est vrai que dans la démocratie, la corruption au sens banal qui se développerait trop et qui serait trop connue, les deux étant nécessaires, serait un élément de corruption, alors là, au sens de Montesquieu.
Mais alors justement, restons-en sur cette question de la corruption, de ce découplage, dites-vous Cynthia Fleury, de l'éthique et du politique. L'autre jour, j'ai vu à la télévision Michel Rocard qui était interrogé sur les scandales, le scandale Cahuzac, puis le scandale Aquilino Morel. Il s'est montré extrêmement sévère, il a parlé d'escroquerie et il dit c'est vieux comme le monde, il a parlé du scandale de Panama. Mais moi, je me dis, mais enfin, ça n'a strictement rien à voir. Parce que l'argent que Jérôme Cahuzac a gagné, par exemple, il ne l'a pas gagné en détournant des fonds publics. Il l'a gagné comme chirurgien capillaire qui recevait du liquide et qui n'a effectivement pas eu le courage extrêmement rare, de déclarer le cash. Et je peux vous dire que 95% des gens qui reçoivent de l'argent en cash ne le déclarent pas. Évidemment, ensuite, il a été ce qu'on dit, etc. Ministre du budget est donc chargé de pourchasser la fraude fiscale. Quant à Aquilino Morel, il y a eu conflit d'intérêts plusieurs années avant qu'il n'entre dans des fonctions gouvernementales. Donc on a quand même le sentiment aujourd'hui qu'on parle d'une corruption généralisée alors même qu'elle était beaucoup plus étendue sous la Troisième, la Quatrième République et qu'il y a eu de terribles scandales immobiliers sous la Cinquième également. Et l'on voit un autre pouvoir émerger sur lequel nous devrions nous interroger aussi, le pouvoir des journalistes, voir des journalistes de dévoiler, de faire démissionner, qui est un pouvoir sûr. La beauté, me semble-t-il, du pouvoir des représentants, c'est un pouvoir d'eux. Ils font des choses. Ils sont là pour en effet, régler la coexistence, améliorer la vie des gens. Et là, on a le sentiment que oui, c'est le pouvoir sûr qui l'emporte sur le pouvoir d'eux au nom de la lutte contre la corruption. De Cynthia Fleury.
Sur les médias, il est certain que nous ne sommes plus dans le quatrième pouvoir, nous ne sommes plus dans le contre-pouvoir, nous sommes dans ce que Marcel Gauchet a bien appelé le méta-pouvoir, c'est-à-dire le fait effectivement qu'on a une superstructure où de toute façon c'est l'interface ultime. Que vous soyez politique, universitaire, etc., vous devez en passer par là. C'est l'interface ultime, mais c'est pas simplement l'interface de médiation, c'est l'interface de jugement. Donc ça, c'est très nouveau, et effectivement, c'est problématique. Je suis d'accord. Mais je reviens quand même à cette question de l'éthique. Machiavel disait, voilà, mieux que la vertu, l'apparence de la vertu. Bon, certes, là, on n'a plus l'apparence de la vertu et ça reste tout de même problématique. Donc, je ne vais pas faire le jeu de qui perd gagne dans la corruption et dans l'historique et l'historiographie de cette corruption. Mais il est certain que, si vous voulez, je crois que tout de même, ce qui est sincèrement mis à nu, c'est le fait que les politiciens, les élites, touchent à la performativité du dire. Pour le dire autrement, en démocratie, la parole et grande régulatrice. C'est-à-dire que si à chaque fois vous videz, vous désubstantialisez la parole, vous mettez en danger la démocratie. Et je crois que c'est ça aussi qui, inconsciemment sans doute, est touché. C'est-à-dire que vous êtes dans l'obligation, les garants, d'assurer une cohérence entre le dire et le faire. C'est obligatoire. Donc quand vous prenez des principes, un minimum, dans vos pratiques, vous êtes un tout petit peu au même endroit. Et pourquoi ? Parce que non seulement vous êtes garant de votre propre exemplarité, mais vous êtes garant de la performativité du dire en démocratie, qui est qu'on ne va pas aller se mettre les uns sur les autres dans la rue, mais nous allons régler, pacifier, modérer, limiter, puisque c'était le sujet, réguler la démocratie par l'usage de la parole. Et cette atteinte à la performativité du dire, je crois que moi, en tout cas moi, elle me heurte profondément.
Et vous la voyez s'exprimer comment ? Donc dans l'affaire Cahuzac, on l'a vu.
L'affaire Cahuzac,
peut-être. Mais
dans l'affaire aussi autre aujourd'hui, avec le fait que l'on va défendre sur le niveau public un certain type de principe de déontologie, de non-conflit d'intérêts, etc.,
ah oui.
Et ne pas être forcément au même endroit ailleurs, etc., etc. Donc je crois que chacun peut comprendre la faute, le moment il n'a pas fait exact. Tout à fait. Mais à ce moment-là, voilà, on fait attention de mettre en cohérence son dire, parce qu'encore une fois, c'est une affaire plus forte que simplement qui nous concerne, nous et notre petite vie. Et je crois que chacun reconnaît en France le fait que, oui, tout le monde fait des fautes, etc. Mais à ce moment-là, voilà, soyons plus au clair sur ça également.
Dominique Schnapper.
Oui, je pense que par rapport à Panama, par exemple... Que vous évoquiez en disant il y a toujours eu de la corruption. Oui,
et ça, c'était de la vraie. Mais il y a quand même dur avec Panama.
Oui, mais enfin, il y a en effet un certain nombre de nuances à apporter. D'une part, l'exigence démocratique s'est accrue. Nous faisons partie du même monde. Je n'ai pas vécu autant de Panama, mais il me semble qu'on devait savoir moins et penser que c'était un autre monde. Et par conséquent, ça remettait moins en question l'influence que peut avoir sur les pratiques sociales de tous l'image de la corruption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'exigence démocratique et le fait que vraiment nous appartenons au même monde et qu'eux ne doivent pas se conduire différemment, ça donne une espèce de justification ensuite à toutes les autres pratiques. Et quand le monde politique est en dérédiction, soit matérielle, enfin soit morale, il me semble que ça risque de se diffuser sur toutes les autres institutions.
Oui, mais
c'est pour ça, parce que c'est tout de même ce qui nous fait exister ensemble.
Oui.
C'est ce qui est le monde commun. Dans le reste, nous appartenons à des institutions différentes. Mais le monde politique est celui qui nous fait exister comme une société.
C'est vrai, mais parmi les nouvelles exigences démocratiques, celle donc qui nous distingue de nos des générations antérieures, il y a ce que Edwy Plenel a appelé le droit de savoir. Et autrement dit, la transparence. Et là aussi, puisque nous, en effet, la démocratie a-t-elle besoin de limites, jusqu'où doit-on satisfaire une telle exigence? Parce qu'après tout, un conseiller à l'Élysée qui fait cirer ses chaussures, il ne le fait pas devant tout le monde. Et j'imagine qu'il y a des coachs, des masseurs, des manucures qui vont dans les différents bureaux de direction, voire dans les palais de la République, parce que les gens ont des emplois du temps terribles. Et cela se fait dans une certaine confidentialité, dans un certain secret. Nous sommes choqués par ce qui nous est révélé, mais peut-être oublions-nous d'être choqués par le fait que cela nous soit révélé.
C'est le terme de transparence qui est gênant. Dominique parce Schnapper. Que la transparence, nous n'avons pas de transparence vis-à-vis de nous-mêmes et par conséquent le droit au secret et à un certain secret et un droit à un certain oubli fait partie des droits de l'homme. Je crois que c'est essentiel, c'est la liberté. Donc l'idée de transparence, c'est-à-dire que tout serait dans le public, est une idée aussi d'absence de limites. J'en suis tout à fait. Montesquieu dit « la vertu elle-même doit avoir des limites », ce que je trouve une formule admirable.
Absolument génial.
Mais il y a d'abord la vertu.
Oui.
Alors, vous dénoncez l'absence de limites sur les exigences, et je suis d'accord avec vous, les exigences doivent aussi avoir leurs limites. Mais malgré tout, il faut une certaine vertu du monde politique pour que dans des circonstances difficiles où les démocrates sont exigeants, où ils savent de plus en plus de choses, aidés par les journalistes, mais ils savent de plus en plus de choses, le monde politique est devenu de plus en plus un monde qui est modèle pour l'ensemble de la société.
Et modèle à sa place peut-être aussi, c'est-à-dire qu'on le veut d'autant plus exemplaire, on prend chacun toutes sortes de libertés avec la morale.
Oui, mais c'est le prix à payer pour que les démocrates acceptent qu'il y ait une certaine autorité sur eux. Et l'affaire Cahuzac, ce qu'il y avait de particulièrement choquant, c'est que son rôle politique était précisément d'empêcher ce qu'il faisait lui-même. Alors là, on était dans quelque chose d'idéal typique. Là,
oui. Sur
ce que le monde politique ne doit pas être. Alors, Monsieur Morellet, c'est moins direct, mais il ne faut pas sous-estimer la valeur des symboles dans l'ordre démocratique. Et évidemment, le cirage des chaussures et la manière de traiter le petit personnel de l'Élysée apparaissaient symboliquement comme remettant en cause quelques-unes de nos valeurs communes.
Le cirage des chaussures, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est une image qui contredit l'idée du semblable. Mais justement, j'ai bien lu l'article de Mediapart. Il enlevait ses chaussures. C'est-à-dire, il était en chaussettes et le serreur était à côté de lui et faisait son travail. C'était pas comme le serreur de chaussures avec une espèce d'esclave à ses pieds. C'est un peu différent. Mais je ne suis pas là, si vous voulez, pour sauver la mise à Aquilino Morel. Simplement pour vous demander ce que vous en pensez aussi, Tina Fleury, de cette question, de cette aspiration de plus en plus répandue à la transparence.
Alors, je crois qu'effectivement, ce droit de savoir, pour reprendre l'expression, cette toute-puissance de savoir, on sait à quel point le savoir ne fonctionne pas avec la toute-puissance, sinon il est un instrument de pouvoir. Donc, de fait, pour que l'esprit critique ne devienne pas simplement ce que d'autres ont appelé la misologie, la haine de la démocratie ou la haine de la raison, la haine du logos. C'est vrai que de plus en plus, les médias pratiquent la misologie alors qu'ils devraient pratiquer l'esprit critique. Ils ne le font pas.
Pourquoi la misologie, c'est-à-dire
Parce que, si vous voulez, à un moment donné, la parole, l'information n'est pas simplement pour dénigrer. Elle est pour proposer une alternative, pour proposer des solutions. Elle n'est pas simplement là pour lyncher, pour prendre l'expression que vous avez donnée tout à l'heure. Parce que Parce qu'elle crée quoi? Elle crée l'antinomie qui va grimper, c'est-à-dire le populisme. Donc, de fait, les médias deviennent l'instrument du populisme. Donc, ce n'est pas possible. Donc, c'est là où je dis qu'il faut vraiment raison garder pour les médias et qu'ils fassent très, très attention de ne pas tomber dans cette misologie. Et c'est vrai que la misologie, c'est du spectacle aussi. Donc, ça renvoie à toute l'industrie de l'information qui fait que, bon, on vend davantage aussi. Et on connaît la situation de la presse par ailleurs. Sur la question de jusqu'où le droit de savoir, on a répondu. Hein, Wikileaks, c'est la fin de la raison d'État, de fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère, à juste titre peut-être, c'est là où on pourrait avoir un grand débat sur est-ce que la raison d'État est un concept absolument déterminant pour protéger l'État de droit ou pas. Donc ça, ce sont des vraies questions. Sur la question de la scénographie, du cirage et autres, je crois qu'il y a deux choses. Tout de même, pour essayer d'un tout petit peu voir le côté peut-être plus sincère, la sincérité du scrutin, si j'ose dire, derrière cela. Soit se faire cirer les chaussures, c'est une affaire de vie privée. À ce moment-là, ça n'a pas lieu dans l'enceinte de son bureau à l'Élysée. On ne choisit pas cet endroit, c'est une affaire privée. On a le droit, par exemple, on a un goût immodéré pour les très belles chaussures. On a le droit, ça fait partie de l'élégance. Jadis, on aurait parlé d'un gentleman, que sais-je. On a tout à fait le droit et on le fait dans son enceinte privée. Si à ce moment-là, on le fait dans l'enceinte publique, ça veut dire que ça devient quelque chose de public. Tout va bien.
Ouais, on le cache, parce que justement, on lui dit qu'on a, non, on l'accuse d'avoir privatisé un salon.
Voilà. Mais oui, mais vous voyez bien le jeu qui n'est pas simple, qui n'est pas simple de cette histoire-là. Soit on dit, écoutez, non, après tout, quand on est un représentant du peuple, on a le droit, il faut, on a le devoir d'avoir de jolies chaussures. Et donc, il faut quelqu'un qui, entre guillemets, s'occupe, ou en tout cas, bon, très bien. Mais à ce moment-là, ça vient heurter quoi d'autre? Ça vient heurter le fait qu'aujourd'hui, la vie publique doit être austère, si vous vous souvenez bien, puisque c'est le discours qui est donné par le président lui-même. Et donc, on voit bien que dans les deux endroits, on n'y est pas. Donc, c'est, je veux dire qu'indépendamment du côté désagréable de regarder l'assiette de l'autre, tout de même, aux deux endroits, on n'y est pas. Soit dans la vie privée, soit dans la vie publique, ça ne va pas.
Bien, alors j'arrête avec cette question de la transparence et puis les exemples que nous avons donnés. Alors, un mot simplement sur la raison d'État. Oui, elle est en crise aujourd'hui, mais pas partout. C'est-à-dire qu'Edward Snowden va se réfugier en Russie, où il semblerait que la raison d'État sévisse en toute impunité. Quant à Julian Assange, il est dans une ambassade d'un pays d'Amérique du Sud, il n'y a pas les mêmes exigences que ceux auxquels il s'attaque. Donc, on pourrait donner des exemples de pays qui sont totalement à l'abri des Wikileaks divers. Mais je voudrais en venir à une autre question. La démocratie a-t-elle besoin de limites? La poser d'une manière un peu différente. La démocratie, c'est un concept politique, au départ. Tocqueville a admirablement montré que c'était aussi un processus historique et social. Donc nous entrons dans une société de plus en plus démocratique, ce qui fait que la démocratie a tendance à sortir de son lit et à investir tous les autres domaines. Il y a la famille, nous l'avons vu.
L'église.
L'école, avec tous les périls que cela peut entraîner. Mais aussi, je crois, et vous en parlez, la culture. Il me semble que les dissymétries, les hiérarchies en matière culturelle sont de moins en moins admises par l'esprit démocratique de notre temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic, Dominique Schnapper?
Oui, je crois qu'il est assez frappant, effectivement, que traditionnellement, on faisait des différences entre la grande culture disons, la littérature ou l'art de masse, et il y avait une idée de hiérarchie dans les productions culturelles. Et ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est que non seulement il n'y a plus de hiérarchie dans les productions culturelles, mais elles ne sont même plus distinguées par leurs caractéristiques ou leurs domaines. Et c'est ce qui est très frappant dans l'art contemporain, où d'une certaine façon, tout est dans tout, où on fait à la fois de l'action, de la représentation, de la peinture, de la sociologie, tout ça ensemble. Il y a eu un dernier épisode frappant et qui peut être, qui peut même, qui est en dehors de toute règle juridique, de toute règle morale, parce qu'il n'y a pas l'idée d'un jugement ou d'une hiérarchie quelconque à l'intérieur des productions culturelles. Alors qu'on a toujours vécu sur l'idée d'héritages différents et de nature et de qualité différente. C'est-à-dire que l'idée d'une qualité esthétique différente est devenue une idée réactionnaire, puisque tout se vaut. Et il y a eu de ce point de vue-là l'action du ministère de la Culture qui a toujours refusé cette idée d'une hiérarchie des différentes productions culturelles, mais qui était en écho avec ce que les individus démocratiques attendent de la culture.
Oui, c'est-à-dire qu'on a demandé aussi à la culture plusieurs choses. De fait, si vous demandez à la culture d'être un facteur de cohésion, d'inclusivité, d'intégration, vous avez tendance à la rendre extensive. De fait, puisqu'il faut la rendre la plus ouverte possible pour qu'elle fasse rentrer le plus de monde possible. Enfin, en tout cas, on croit que c'est ainsi. Je ne suis pas sûre que ce soit là aussi la meilleure des formules. Donc ça, très certain. Ce n'est plus simplement un facteur de... Ce n'est plus le lieu de la transmission du monde commun, c'est que immédiatement, à l'instant T, sans effort, il faut que ce soit monde commun. Et donc, monde commun, c'est quoi aujourd'hui le monde commun sans effort? Ça s'appelle la société de consommation. Hein. C'est-à-dire l'antithèse d'un monde commun, mais c'est de l'immédiat, c'est du simulacre de monde commun. Et donc, en gros, vous avez une culture qui est un produit culturel. Et donc, on va parler, on va faire à l'école une chanson de rap, va être tout d'un coup en cours de français, sans aucun souci. Et on va considérer que c'est un marchepied peut-être vers autre chose. Donc on voit bien que la démocratie, voilà, elle est toujours dans ce travail d'inclusivité et elle pense qu'elle fait de l'inclusivité plutôt par du quantitatif que par du qualitatif, pour le dire un peu rapidement. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, je crois que c'est aussi, ça renvoie à l'autorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans l'autorité à augurer, c'est-à-dire l'augmentation, mais dans le hauteur. C'est-à-dire qu'on se dit que, après tout, si la nature n'a pas de limites et qu'elle n'impose pas des limites, la culture, elle n'a pas de limites non plus. Et c'est moi qui vais dire ce qui est culturel, d'une certaine manière. C'est ma manière d'être auteur. Et on voit très bien à quel point, tout d'un coup, c'est la folie des DJ, où ce n'est plus l'importance d'être compositeur. C'est celui qui va mixer en prenant, bien évidemment, la culture des autres et en redonnant une autre coloration. Et on voit très bien que on est auteur. Voilà, aujourd'hui, tout le monde est auteur en prenant ce que la culture a créé. Donc ça, c'est quand même des choses assez, assez différentes, si j'ose dire.
Et les artistes plasticiens définissent comme une production artistique le seul fait que c'est eux qui l'ont faite.
Oui, alors, mais je voudrais qu'on voit jusqu'à quel point la démocratie est impliquée dans le phénomène que vous décrivez l'une et l'autre. Et je pense à un reportage publié dans un journal il y a déjà plusieurs années sur Louis Schweitzer, alors qu'il était PDG de Renault. Et il a dit dans ce reportage qu'il a avoué sa passion pour la bande dessinée. Il a dit « J'ai 3000 albums chez moi. » Et d'ailleurs, j'ai de grandes conversations avec Marc-Édouard Leclerc parce que nous partageons cette passion et nous faisons notre coming out ensemble. Et ce qui m'a frappé, c'est que le même Louis Schweitzer est devenu premier président, je crois, de la HALD,
oui,
la haute autorité contre les discriminations. Et il est vrai que... Je ne sous-estime pas, bien au contraire, la nécessité de lutter contre discrimination raciale, à l'embauche notamment, ou au logement. Mais on a l'impression aujourd'hui que c'est toute discrimination qui est mise en cause. C'est, en quelque sorte, le droit de discriminer qui est refusé au nom de l'égalité de tous. Et c'est ainsi qu'on peut, en effet, se targuer d'aimer la bande dessinée. Pourquoi ne pas aimer la bande dessinée? Mais sans targuer, c'est autre chose. C'est dire, en sous-main, il n'y a pas d'art mineur. Et quand on dit il n'y a pas d'art mineur, non seulement on réhabilite les arts mineurs, mais on vide les autres. C'est-à-dire, si la variété, c'est de la musique, il n'y a plus de musique. La musique disparaît peu à peu de la consommation courante. Donc, on voit quand même quelque chose qui, se répand, se généralise avec d'autant plus de force que c'est le principe de non-discrimination qui est à l'œuvre. Dominique Schnapper.
Je crois que le risque, c'est de passer de la distinction à la discrimination. C'est-à-dire... on peut distinguer les différents produits, on peut distinguer les différents produits culturels. Ils sont différents les uns des autres. Mais ce à quoi vous faites allusion, c'est le moment où la différence, au lieu d'être reconnue comme une différence, serait discriminatoire. Toute différence n'est pas en tant que telle discriminatoire. Et le risque de notre société, c'est de qualifier comme discriminatoire toute espèce de distinction.
Parce qu'elle se refuse à la hiérarchie.
Il y a des distinctions. Ces distinctions, on peut les qualifier. On peut simplement les définir. Et les analyser, elles ne sont pas en tant que telles discriminatoires et toute discrimination n'est pas en tant que telle inéquitable. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des discriminations à faire, des distinctions à faire, elles ne sont pas toutes discriminatoires. Et le risque de dévoiement, c'est de considérer comme inéquitable et discriminatoire toute espèce de forme de distinction. Maintenant, quand vous parlez de la bande dessinée est devenue un art très classique par rapport à l'art contemporain. Et on voit que Louis Schweitzer n'était pas tout jeune quand il a dit ça, parce que maintenant la bande dessinée a toute la légitimité culturelle qu'on exigeait autrefois de la littérature.
Mais je sais.
Pour aller dans ce même sens, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Il y a aussi, si vous voulez, tout départ, ça, d'où l'on parle. Voilà. Bon, donc je crois que ça reste quand même important. Il y a des snobismes nouveaux aussi. Faire son coming out sur cette question-là, alors que l'on est soi-même le plus inclus des inclus, je le dis sans jugement, hein. Et d'une certaine manière, je suis le plus
désinclus. Quand Lévi-Strauss disait qu'il aimait regarder la télévision.
Exactement, ça fait partie du jeu de signifier à l'autre, alors qu'il me croit différent, précisément, je suis ton semblable. Et je le fais généralement par quelque chose qui est plus commun que la lecture de la recherche de Proust. Bon, donc de fait, vous signifiez votre similarité. Bon, ça c'est un premier point. En revanche, je crois qu'il y a quelque chose de plus, moi, qui je trouve plus intéressant, c'est de considérer que les chemins à l'intérieur de la culture sont rhizomiques ou sont précisément pas verticaux. Et ça, c'est quand même aujourd'hui, il y a un concept qui est en train de se substituer à la notion de hiérarchisation ou de la verticalité, et c'est la notion de latéralité, d'horizontalité. Je ne suis pas sûre que ce soit exactement synonyme de relativisme. Je ne le crois pas. Qu'il y ait une tendance facile, une instrumentation de cela, sans doute, mais une tentation, parce que c'est plus simple aussi, mais je ne crois pas que ce soit la vérité en dernière instance d'une sous-culture qui prendrait la main sur la culture.
Bon, ben très bien.
Côté optimiste.
Il faut être optimiste.
La volonté de l'optimisme.
Il faut être optimiste, en effet. Merci beaucoup, Cynthia Fleury. Je rappelle que vous avez publié Les pathologies de la démocratie. Ce livre existe dans la collection Bibliodessai du livre de poche. Et Dominique Schnapper, vous venez de faire paraître chez Gallimard, dans la collection NRF Essai, L'esprit démocratique des lois. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre 1940-1944, La France occupée face aux persécutions. Mes invités seront Henri Rousseau et Jacques Semelin. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Michel-Ange Vinti. À la technique aujourd'hui, Ludovic Auger. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.